Menstruel, adjectif.
Cavaleuse,
Physionne,
substantif.
Qui a rapport au menstrué.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine
les
de.
Ils sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Vitre qui
l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
des gamins
de la procédure normale et
le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Un beau matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène m'éclatait
dans la constitution
et de
leur manière
il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotylie.
En parlant d'un inanimé concret
fréquents.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Chères toutes, quelques jours passés entre Noël et le jour de l'an à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. À l'écoute des corps poreux et traversés, deux facettes d'une cassette, face A, face B.
En arrivant, une bouche assez charnue. Ce corps a des fourrures. Très vétuste. Elle ne l'aime plus.
Elle n'est pas fière de son sang, c'est son.
Elle a pris 12 kilos. Et plus court sur le côté.
Elle a une cicatrice sur le...
Il y a plein de gens à l'intérieur.
Elle a les yeux noirs.
Elle avait les cheveux crépus. Elle les a défrisés.
Chut.
Elle a décidé de tous... De tous les couper.
Pas lent, pas court aussi.
L'ambre.
Elle a le cœur brisé. Ça va. Des petites oreilles.
On se dit, mais quelque part, en fait...
R-U-G-A-R-E.
J'ai quand même envie d'avoir aussi de liberté.
Il y a la cuisine, donc quand j'ai faim.
Une grande salle à manger.
Des coussins.
Une chambre.
Elle a tout enlevé quand elle était enceinte. Une petite bouche.
Je peux manger. Fumer. Quelques vêtements.
La porte d'entrée. Elle est plutôt fine. Un long cou.
Et je peux aller dormir dans l'herbe.
Des longs bras. Elle a une petite fesse aussi, trop petite.
Il y a des fontaines et des arbres.
Je monte l'escalier.
Je déteste dormir les volets fermés, les rideaux tirés. Je ne peux pas, j'ai besoin de la lumière du jour.
La cuisine.
Par césarienne.
Ouverte.
Avec des longues jambes.
Canapé, les jouets de mes enfants. Les photos de famille accrochées au mur. J'avais changé le papier peint.
Quoi, les endroits où t'es bien?
Chez moi.
Chez moi.
parce qu'on ne s'imagine pas, parfois on ne s'imagine pas le pire, parce que justement notre esprit notre esprit ne va pas dans ce sens-là, mais on a la chance en prison, enfin si on peut, enfin c'est une chance un peu, c'est un peu ironique, de voir la réalité, ce qu'est l'être humain dans la pire situation qui soit.
Teja ni noutu paki sei moyu ba ya mufegete amande de gio samana mande na yesusu samana mande a papa donaye gie sine chaita kanga yo gie sine nena gatu gie sine nena masa gie sine makawipyo abeteke pina fumanga yo abeteke.
C'est quoi, c'est une sorcière?
Vous êtes vaudou?
Moi, ça me fait penser à une fée. À cause de ses tresses, on dirait qu'elle a une petite couronne sur la tête.
Donc, ça s'accroche comme ça. Et puis elle est pendue, suspendue au berceau des enfants. En fait, je suis chilienne. Il y a eu une grande dictature qui a duré presque 20 ans. Il y a eu des femmes qui ont été emprisonnées, mais qui n'avaient pas vraiment commis des fautes. C'était juste qu'elles avaient une pensée politique. Et ces femmes, elles ont été enfermées, torturées, violées par les gens qui les ont enfermées. Donc c'est d'autres contextes d'enfermement. Et elles n'avaient rien dans leur cellule pour à Noël offrir ou envoyer des cadeaux à leurs enfants qui étaient dehors, comme vous. Et ça, c'est qu'elles faisaient une petite cisaille dans leur matelas. Elle les colorait avec ce qu'elles avaient des couleurs à ce moment-là, je ne sais pas, des restes de, j'imagine, de la bouffe. Là, elle m'a raconté la personne qui m'a offert cette poupée. J'avais raconté cette histoire à Pauline et je vous la montre, enfin, je vous la partage aujourd'hui.
Je peux la prendre ?
Bien sûr, tu peux la prendre. Elle a normalement une plus belle boîte que ce sac. De recyclable, elle a un peu perdu des ailes. Hein. Bah oui, il faut que. Elle a combien de temps de cette poupée si elle est depuis 78?
Oh là là, moi je suis en train de te donner de l'orange. Tu manges au moins des clémentines?
Bon, là oui.
Bon bah voilà.
C'est bon?
Ça y est. Ah ouah, c'est un bras.
Des arbres avec des racines. Des feuilles mortes dessus.
Avec des nids d'oiseaux sur ma tête et tout. Ça, c'est les initiales de mes enfants. Ça, c'est une papillon avec.
Pas mon corps!
C'est les racines de l'arbre. Ouais. Planté sur. sur la terre. Et quand je me lave, je n'ai pas l'impression d'être propre, en fait.
Encore sale, plus sale, quoi. Mais quand je suis chez moi, c'est pas la même chose.
Mais pourquoi?
Peut-être c'est la prison. C'est sale. Tu te sens sale, même si tu as fini de laver, tu te sens sale encore.
Parce que la douche est sale. Tout est sale. Ouais, je t'ai sale.
C'est quand j'ai fini de me doucher, j'étais en train de fermer l'eau de l'arrivée d'eau et j'ai un tout petit peu touché le mur et le mur me paraissait mes crades et donc j'ai rallumé, je me suis relavée et j'ai fait en sorte de pas toucher les alentours.
C'est juste que ça arrive tous les jours.
As águas caindo da montanha, em cima das costas, e a gente, né, relaxando, sentindo as vibrações boas da natureza.
Je regarde à l'intérieur de moi et je vois mon cœur qui est noir.
J'ai frotté mes yeux, j'ai sauté rapidement du lit pour lui prendre les papiers qu'elle donne le matin et lui donner la poubelle comme d'habitude.
Pour ne pas faire face facing up.
C'est pas facile de faire face quand tout ton monde est noir.
J'ai tout de suite pensé à aller à la douche.
Plus de mer verte.
J'ai bu du jus et une mandarine.
Change-la en un bleu foncé.
Après, je me suis recouchée.
Happening to you? If I look hard enough.
Si je regarde trop. Eu já acordei pensando quanta injustiça o juiz deixar muitas. Né, aqui presa, no pleno Natal, a gente aqui por umas coisas tão pequenas, sabe? Ficar na prisão, passando Natal aqui, longe da família, longe de tudo. Longe da minha família, eu não tô suportando isso.
Je dois tourner ma tête jusqu'à ce que ma noirceur parte.
Que moi ça me saute pas, je sais que je suis noire, mais même quand je parle avec des gens, je fais en sorte de pas parler de ma couleur ou d'en revenir à ma couleur, parce que c'est pas ça qui fait ce que je suis, tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Ou pas
juste essayer de prendre conscience depuis l'intérieur de la sensation
mes poils,
mes fesses.
Mon cœur.
me fi bua nim shikin me de ki de di mbego u ku fi shi de sande fambego agongo pu kasabanga migama de si safu de sande anga fambe ele li boli de sande c'est bon.
Comme j'ai un carton rouge, la surveillante n'est pas habilitée à m'ouvrir la porte et me dire bonjour. Il m'allume la lumière pour me réveiller comme ça. J'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je suis allée au sport.
Je déteste dormir les volets fermés, les rideaux tirés. Je ne peux pas. J'ai besoin de la lumière du jour. Du matin au soir, on a cette image-là des barreaux, les barbelés et de la cour. C'est une image constante. Donc, en fait, on se sent condamné, mais tous les jours, du matin au soir.
En dessous du sol, il y aurait toutes les couches historiques. Juste en dessous, la première serait celle de la jeunesse. Ici, il doit y avoir des canalisations, un terre-plein, peut-être un vide d'air pour que le bâtiment reste sain. Je me demande si ici, à la maison d'arrêt des femmes, en dessous, il y aurait peut-être le 19e siècle ou le Moyen Âge. Si on creuse encore un peu, ici, on trouve les sables de Fontainebleau. L'eau est à 3,8 mètres en dessous et nourrit la rivière de l'Orge, de l'Essonne. Si on creuse encore, on trouve la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau inférieur et le noyau. C'est à 30 km en dessous de nos pieds et ça nous tient à la surface.
Je vais faire une pause qui m'a beaucoup marquée depuis que j'ai été mise en état d'arrestation. Et c'est une pause que je me connaissais pas et que j'ai découverte depuis que je suis dans cette expérience carcérale. Voilà, je donne dos au noyau terrestre. Je regarde le ciel, enfin le plafond, mais je donne... Ouais. On dit déjà de la tristesse dans la silhouette. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas. C'est les bras, ils sont tirés. Enfin, c'est je me protège en fait et pareil, c'est comme si en fait je replie les jambes parce que j'ai pas envie de qu'on m'attrape. C'est émouvant, c'est triste en même temps, mais c'est très réaliste. Et là, arrivé en prison, on est complètement amnésique, en fait. Pas de sa vie, mais de ses souvenirs, de ce qui fait un peu notre identité personnelle qu'on est avec nous-mêmes. On essaye de forcer le cerveau à se souvenir, à se mémorer, mais c'est comme s'il y avait un grand trou noir. On oublie.
Pour aller mieux, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au pays où il n'y a rien du tout. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais c'est pas vrai. Et là-bas, vu qu'il n'y avait pas de lumière environnante, on voyait hyper bien les étoiles, au fait. Après les toilettes, qui était un trou dans la terre, ce qui est drôle, c'est un ancien bâtiment où j'ai fait tous mes stages d'aide-soignant. Je suis aide-soignante de profession
c'est très vétuste. Mais moi, j'ai aimé parce que c'est là-bas où je suis née, en fait. Après, les alentours ne sont pas forcément fréquentables. Je suis soninké. Il y a plusieurs dialectes, en fait. Mali demoune ne pape, Mali demoune ne capo. Après, je connais pas les paroles. Mais j'aime bien la chanter.
J'ai du mal à. Enfin, je dois avouer que j'ai du mal à cohabiter avec l'individu que je suis parce que je ne sais pas vers où aller. Il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent à moi, mais moi, je ne sais pas vers où aller.
Moi, j'ai envie de te dire que moi qui n'ai aucune passion, qui ne sais rien faire de mes 10 doigts à part m'occuper des gens parce que je suis aide-soignante, toi, tu as plein de portes qui sont devant toi. Et prends ton temps, si tu veux, où tu peux avoir plein de vies, au fait, en une. Et je ne sais pas comment dire ça, encore une fois, parce que je ne suis pas douée.
Merci. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, aux futures prochaines détenues ?
De ne pas se laisser abattre. C'est très compliqué au début de s'y faire à la peine, que ce soit 3 mois, 6 mois... de ne pas se laisser aller et de persévérer et de se battre. Et que la vie à l'extérieur vaut le coup d'être vécue, au fait. Tout simplement. Et la promenade, les rencontres avec les gens, des squats, des choses comme ça.
Non, ça, c'est démotivant. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre la musique et danser, se lâcher. Laisser son corps transpirer, parce qu'il faut que la peau, elle respire. Il faut maintenir son corps en vie, parce que c'est vrai qu'on marche, on s'assoit, on fait des mouvements, mais on oublie, en fait, on s'allonge, mais en fait, on oublie que le corps est un élément vivant.
Je suis d'accord avec toi.
Au début, c'était très difficile parce que moi, quand j'étais incarcérée en Espagne, je me disais « Oh mon Dieu, ma crème de jour, oh là là, mes cheveux, oh là là, mais moi, je vais chez le coiffeur 3 fois par semaine, je vais faire mes soins, mais ce n'est pas possible, mais ceci, cela, mais comment je... » Et j'ouvrais la porte, moi, j'avais honte parce que sur le coup, je n'étais pas apprêtée. Mais j'avais une honte et puis je suis arrivée devant le juge le 17 juin et j'étais pas du tout apprêtée, j'étais mal coiffée, etc. Et en fait, je me suis rendue compte à la fin, je me disais, mais Chloé, tu te fais tant de chichi pour ces détails-là, mais ces personnes, au final, elles s'en foutent. Elles t'ont même pas fait de remarques que t'es mal coiffée, que t'as pas mis de déo, en fait, que tu sens pas bon.
Moi, je suis un peu féminine. Hein. Mes ongles, moi, mes ongles, mes cheveux. J'ai fait de l'alopécie à un moment. Les problèmes, quand on a des problèmes, ça ressort sur le physique. Mais je commençais à perdre mes cheveux. Et j'avais toute cette partie-là, toute la partie de gauche, qui commençait à s'en aller. Et toute la partie de droite qui arrivait jusque-là. Quoi. C'est là où je me suis dit... Allez, je m'en fiche, je passe par le ciseau et j'ai commencé à me les couper toute seule. Même si je sais que c'est pas si joli que ça, mais ça passe. Mais en tout cas, mes ongles, je les fais toujours et je les ferai toujours. Hein. C'est une marque de féminité, c'est la seule marque de féminité que je peux garder.
Moi, je me laisse... Je suis là, seule avec moi-même. Donc déjà, entre... les séances de cire chaude, les séances de laser, le rasoir, justement le vernis sur les ongles, les sourcils au fil, les peelings sur le visage. Entre tout ça, moi je me dis, mon corps, moi je laisse ma peau respirer, je laisse ma peau se reposer, je laisse que mes poils poussent parce que c'est naturel. Je me dis, mais prenez votre place, vivez, respirez. C'est La vie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de répit. Et moi, ici, en fait, c'est mon moment de répit.
Moi, j'aime, moi qui suis une personne qui met des chapeaux, qui met des talons, des bottines, des vestes, tu vois, j'aime bien être apprêtée. Et bien, quand je suis arrivée, je me suis sentie comme une SDF, franchement. Et que la bonne sœur te file des vêtements beaucoup trop grands ou trop petits et que tu ne te sens pas à l'aise. Enfin, moi, je ne me sentais pas à l'aise dans les vêtements. Et j'aime bien paraître... bien, en fait, et bien habillé, tout simplement.
Moi, je pense que c'est une opportunité, justement, pour s'accepter tel qu'on est, en fait. Moi, je me sens pleinement... En fait, je me sens complètement à l'aise. Alors qu'à l'extérieur, moi, si je me pointe habillée comme ça...
Non, toi, j'ai vu
pas... Et justement, ici, je trouve qu'on a une liberté de ne rien avoir à prouver. On est nous-mêmes, on est ce que l'on est, en fait, sans justement ces préjugés de la société qu'on nous attend, que son eyeliner soit bien mis, que sa coiffure soit bien... Voilà, et ici, en fait, tout le monde s'en fout de ça, en fait, puisqu'on est déjà dans une misère tellement profonde que, en fait, la dignité de l'être humain, non de l'humain, que la dignité de l'être humain n'est plus... On t'a enlevé ta dignité, on t'a enlevé ton identité. En fait, c'est la seule fois de ta vie où on t'autorise à redevenir enfant et de pleurer, en fait, parce qu'on a mal, parce qu'on a bobo et parce que sur le coup, on est puni dans un coin. En tant qu'adulte, on n'a plus le droit à ça. On n'a plus le droit parce que quand on est en société, on n'a pas le droit à l'erreur. Attention, il faut que je sois un bon parent, il faut que je sois une bonne employée, il faut que je sois une bonne amie, etc. Mais là, c'est une période de vie où, sur le coup, on nous met face à nos erreurs et on a le droit, en fait, de redevenir un enfant et d'essayer de se faire pardonner sans être jugé.
Pour moi, il y a quelque chose à coudre entre l'intérieur et l'extérieur et qui passe par des personnes de l'extérieur qui viennent à l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois que je viens, c'est me rendre compte, en effet, que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'autre que toutes celles qui sont à l'intérieur.
Mais venir intervenir lors de choses comme ça... ne fait pas de vous une paria de la société, vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites juste un passage, vous, et vous savez pas ce qu'on vit au quotidien.
Il y avait quelqu'un qui se percevait comme un danger, enfin qui pensait que les gens à l'extérieur percevaient les personnes incarcérées comme des dangers.
C'est l'image qu'on a à l'extérieur est une image qui est à rectifier. Je pense qu'on est plutôt perçu à l'extérieur comme des monstres. Un monstre, c'est quoi ? Un monstre, c'est quelqu'un qui est complètement déshumanisé, qui a commis des actes, etc. Une sorte de crime envers l'humanité. C'est pour ça, en fait, qu'on nous met en prison. À partir du moment où on arrive en prison, on met tout le monde dans le même sac. Pour une petite chose, on peut venir en prison, on peut faire des peines de 2 ou 3 mois, mais ça ne change pas le fait que l'image reste la même, peu importe la peine qu'on fait.
Moi, je serais curieuse d'entendre ton point de vue sur juste cette relation entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est vrai que souvent quand j'ai des conversations avec des gens dehors sur mon travail, on me demande souvent si... est-ce que les gens sont calmes ? Est-ce qu'ils sont disciplinés ? En fait, c'est toujours compliqué de répondre à ça parce que bah, les gens qui sont à l'intérieur sont comme ceux de l'extérieur, finalement. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, à part les faits pour lesquels ils sont à l'intérieur, mais enfin, c'est vrai que c'est toujours compliqué et c'est toujours ça qui revient, l'agitation.
Mais justement, je revenais en prison mais justement sous forme d'atelier, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de me traverser l'esprit de continuer à revenir après ma détention. Moi, la première chose que je dirais à ces filles-là, moi, je leur dirais pleurer. Donc, en fait, je mettrais que des mouchoirs à disposition. Mais ça...
Je sors dans un mois, même pas, normalement.
Bon, croise les doigts.
Arrête!
Je te dis merde.
Ouais, dis-moi une grosse merde.
Je te dis merde.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, substantif,
qui a rapport au menstru.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
J'avais 19 ans quand j'étais internée. Oui. J'y étais de 42 à moitié 44. On avait arrêté d'abord ma mère et ma sœur.
On était déjà, comment dirais-je...
Et moi, je suis restée toute seule.
Militant, hein.
Avec mes frères qui étaient plus jeunes que moi. Et j'avais, pour ainsi dire, la charge de mes frères.
J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Il y a eu les grèves de 36. Et j'étais apprentie.
Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir, hein, toute seule. Et je suis passée 15 jours à me chercher du boulot, à travailler, à faire des lessives, à faire des choses pour gagner un petit peu d'argent. Hein?
Et je suis allée à la Bourse du Travail m'inscrire comme gréviste.
Et puis, un beau jour, il y a les gendarmes qui arrivent à la maison et qui m'arrêtent.
Oui, bonjour Madame Baena, c'est Benoît Bory, le réalisateur radiophonique.
Eh bien, la police est arrivée chez moi en me disant, vous me suivez, madame. Alors j'ai dit, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est rien, c'est juste pour un petit renseignement. J'ai dit, mais je prends rien, non, c'était l'hiver. Alors je suis partie avec des chaussures de ville, alors que j'avais mes chaussures de ski, que j'allais traîner avec des grosses chaussettes que j'aurais pu mettre. Et je suis partie, et le lendemain matin, à 4h du matin, debout,
bonjour.
Et nous partions à Mende,
merci,
avec 1,50 m de neige. Il y a eu une tombée de neige cette année-là.
Bonjour, c'est le cinéma chez moi.
C'est ça.
Et on a été au Cannes.
Le cinéma pour les oreilles.
Oui.
Voilà.
Pardon, avancez.
Et puis du Cannes là-bas, ils l'ont changé à Brest.
Ça va, on ne vient pas trop tôt là, c'est bon.
On a dit 11h.
Ouais.
Vous êtes en retard plutôt.
D'accord. Vous préférez qu'on s'installe où ?
Là.
D'accord.
Vous voulez qu'on enlève les chaussures ?
Non, alors ça non. On nettoie. On va pas faire enlever les chaussures.
Ok, très bien.
Asseyez-vous.
Alors l'histoire du camp de Brins, on pourrait dire d'ailleurs l'histoire des camps de Brins, puisque plusieurs camps se sont succédés avant que ne soit ouvert le 14 février 1942.
En janvier 1942.
Le camp de concentration pour femmes. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait d'autres camps de femmes en France.
Et puis je parle du Cannes. Pour ça, je ne peux pas l'oublier, l'arrivée au camp de Brins. Ça a été pour moi terrible. Le souvenir sonore, bon, d'abord, il y avait ce coup de portail. Bam !
C'était un camp avec une clôture. Il y avait une palissade, mais qui était doublée de fil de fer barbelé.
De barbelé. Le camp, il y avait 4 miradors quand même. Puis ce portail qui fermait, ça m'a semblé qu'on me poussait dedans d'un coup. Hein. Alors ce portail, je l'ai là. Je crois qu'on me le ferait entendre aujourd'hui, je le reconnaîtrai de loin. Oh oui, quand je suis arrivée, on nous a mis dans la baraque des politiques, on nous a donné un peu de soupe, on n'avait rien mangé, on a souffert. Et le froid, -20 on avait dans les baraques.
Et là, on me met avec les Espagnols. Alors, j'ai dit bravo. Il me dit, vous êtes content? J'ai dit oui, parce que mon père nous a appris l'espagnol et maintenant, je vais me parfaire en espagnol.
Et puis, tout d'un coup, ils disent baraque 7. Baraque 7. On va à la baraque 7. Je me suis dit, ça y est, je suis internée. Là, j'ai compris que j'étais internée. Et puis, ce camp, il était, c'était en plein hiver. Il faisait noir, il faisait sombre. J'ai vu une chose terrible de vivre là-dedans. Vraiment, l'âme m'est tombée aux pieds. Et puis quand on rentre dans la baraque 7, on dit « Madame Casamichela !» Et on appelle ma mère et ma sœur. Et sans savoir, je me suis retrouvée avec ma mère et ma sœur au moment où je rentrais, au moment le plus tragique. Je me suis retrouvée dans le cou de ma sœur et de ma mère qui m'embrassaient, qui... Bon.
Le grand portail principal du camp, avec ses... fermé par des barbelés symboliques.
On était classés par nationalité. Les baraques étaient placées de manière... Et on avait la baraque espagnole, dont Angelita faisait partie, bien qu'elle était française.
Le seul baraquement qui subsistait, c'était le plus grand.
Il y avait un seul cyprès
qui faisait à peu près une centaine de mètres de long, qu'il était fabriqué en dur, en brique.
Après, il y avait les Juifs et toutes les autres nationalités. On était à l'entrée du camp. Juste à l'entrée de notre baraque, on voyait le portail du camp.
Donc il y avait par derrière ce long bâtiment 20 baraques, je pense au moins deux rangées.
Ouais, attends-moi, je vais essayer de monter là-haut, là. C'est apparemment le grillage, il est moins haut.
Fais gaffe.
Alors, on avait le haut-parleur juste en face de notre baraque.
Ouais, ben, c'est tombé, en fait, on va...
Et comme on fait exprès,
on redescend. Attention.
Au camp de concentration, à 6 heures, on nous passait le maréchal, nous voilà. Il y avait des Polonaises dans un endroit, il y avait un peu de tout. On était 500, pas loin de 500. On ne connaissait pas tout le monde, mais enfin, dans le camp, on se promenait, les gens, on essayait de vue comme ça. Les prostituées et les... Il y avait ce coin-là qu'il ne fallait pas fréquenter, ma mère m'interdisait d'aller dans ce coin-là. Sortie de la baraque, elle me disait « Où tu vas ?» Il fallait que je dise « Où je vais ?» Où j'allais. Mais surtout pas là-bas, hein, surtout pas là-bas. Bon, je ne crois pas qu'ils étaient plus méchants que nous, mais il ne fallait pas fréquenter ce coin-là. Par contre, du coin où il y avait les Juifs, où il y avait les Polonaises, ben, là, on pouvait aller venir jusqu'à 10 heures le soir. Non, 9 heures le soir. Il y avait l'extension de feu. Les talons des surveillantes qui passaient la nuit, qui passaient le jour, tac, tac, tac. Ces talons qui marchaient la nuit dans le silence. Arrêtez de rire, et maintenant, on éteint, et il faut dormir. Après, les portes qui claquent la nuit, parce qu'ils viennent pour nous faire des...
Mais nous, on ne dormait pas.
Je l'ai, moi, quelque part, mais c'est tellement rangé, mes souvenirs, que j'aurais dû le sortir. La baraque, il y avait une quarantaine de personnes. Hein. Alors, elle était partagée en deux, une vingtaine de chaque côté. Alors, les cabines, il y avait une, deux, trois cabines de chaque côté, six. Et dans chaque cabine, il y avait deux ou trois personnes.
Voilà.
Alors, ça faisait une quarantaine de personnes.
Ça, c'est du camp. Où c'est, on ne peut pas le dire. Toutes les baraques faisaient comme elles voulaient, hein. Tandis que nous, on était quand même organisés. Il y en avait une qui balayait la baraque. Il y avait une certaine discipline à respecter.
Qui coupait le pain. qui le distribuait, voilà. Le café, le matin,
c'est pas ça.
La plonge, on appelait ça. Parce que la plonge, on avait un fil de fer, une boîte de conserve, on y mettait l'eau dedans, le crochet, et on plongeait dans le sauce. Alors quand l'eau bouillait, on mettait un peu la poudre qu'on nous donnait, un ersatz de café, je dirais. Alors on disait, qui c'est qui est de plonge? Alors, chacune à son tour faisait la plonge, distribuait l'eau chaude.
Ah, c'était mon journal.
On avait notre café.
Que j'avais fait.
Pas les 30 de la baraque.
Enfin, pour moi. Hein.
Chacune avait son petit groupe.
C'est des photos du camp, voilà. Tout ça. Ça, c'est la fille de Perry.
Ça veut dire qu'il y avait des enfants au camp ?
Il y en a eu.
Quand je suis arrivée, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez les différences qu'il y a entre les Espagnols. Il y a les communistes, les poumistes, les trotskistes, les anarchistes, les socialistes. Alors, il y avait cinq qualités d'idées politiques. Ça discutait, oui, parce que si, parce que là. Et alors, on m'a élue, comme j'étais bilingue, on m'a élue responsable de baraque. Je leur ai dit, je les ai réunis autour du poêle. Il y avait le poêle au centre de la barre. Écoutez les copines, hein, on est toutes dans le même bateau. Et alors il va falloir s'entendre, sinon moi je vais vous donner le compte.
L'hiver, on se renfermait dans la baraque autour de ce poêle. Je ne vous ai pas parlé du sacré poêle.
Avec ma petite voix, je leur avais dit... Pas de dispute dans la baraque, hein. Et ça a très bien marché. Hein.
Il était transformé en tout. On avait mis un fil de fer barbelé autour et on y accrochait les gamelles pour avoir de l'eau chaude. Alors, si on avait la chance qu'on nous donne un quart de vin, de temps en temps on nous donnait un quart de vin qui était infect.
Qu'est-ce que vous buvez ?
Mais on y mettait une saccharine dedans. On le faisait chauffer sur le poêle et on avait du vin chaud.
Oh, un verre d'eau, ça ira, madame.
Oh, quand même, non.
Ça nous réchauffait un tout petit peu.
Un apéritif, vous voulez pas?
Je n'aime pas beaucoup l'alcool. Voilà.
Ah, voilà.
Et alors, on repassait le linge sur le tuyau du poêle. Alors, il faut le faire.
Les boîtes où il y avait la farine de châtaigne, on les récupérait pour faire pipi la nuit, parce que les WC étaient éloignés de certaines baraques. Et alors on faisait pipi la nuit, parce que le froid, je ne vous dis pas. Hein. Et il y avait une couche de glace sur l'urine le matin.
La buanderie. Il tapait. Mais ça faisait tac, tac, tac. Une longueur de ciment avec des robinets. Et puis, une fois par semaine, on avait le droit d'aller se doucher. Et alors là, on se mettait à poil et puis on était entre femmes, bien sûr. Mais ça fait rien, je me lavais quand même. Il fallait se laver. Alors ces douches, c'était vraiment une fois par semaine. Qu'est-ce que c'était bon, mon Dieu.
Reina se corto la luna, luna lunera. Y ha abierto su ventana la pico nero.
Si on ne prenait pas soin de nous, c'était la dèche complète. Je crois que c'était une manière de vivre, en fin de compte. On se prêtait des fringues.
La piconera del mare, il piconero.
Moi, j'avais une copine qui était coquette comme tout. Allez, mets ça, mets ça. Et puis, des fois, je me présentais à ma mère. Qu'est-ce que tu as mis là? Où t'as sorti ça?
Pour la sierra cantando.
Il y avait toujours quelqu'un prêt à me faire une mise en pli ou à me maquiller ou à me pousser en avant. Hein.
Con el lucero.
Le quotidien, c'était manger quand on pouvait, trouver à manger.
Nous avions très faim.
Trouver à faire du feu, parce que pour faire cuire à manger, il fallait trouver du bois pour faire du feu.
On se dictait des menus, tu vois, mais on ne pouvait pas les réaliser.
Et comme toutes les internées, on était 300 et quelques, chercher à se faire cuire quelque chose, il n'y avait pas de bois, on n'en trouvait pas. Mais ils nous mettaient les passerelles pour la boue, parce que vraiment, on s'enfonçait dans la boue l'hiver. Et ces passerelles, je ne sais pas si on le faisait exprès ou pas, mais dès qu'il y en avait une qui flanchait, elle disparaissait. On improvisait beaucoup de choses. Déjà, le réchaud pour faire à manger, il fallait le faire. Et pour s'asseoir, et pour des cartons qu'on ramassait, on faisait des tables.
Et alors, on avait institué, quand une recevait un colis, elle le mettait à la collectivité. Et il y en avait une personne de la baraque qui gérait. C'était surtout à la baraque française que ça se faisait. Parce qu'après nous, à la baraque espagnole, c'était toutes des réfugiés. Elles n'avaient pas obligatoirement des gens dehors qui leur envoyaient des colis.
Mais on ne peut pas. Vous savez, chacune, on partageait un peu, mais. Et moi, j'en ai reçu des colis. Et ma collègue à côté, Kikosha et moi, et je me souviens, j'ai donné un œuf cuit, j'ai donné un peu de ma sardine partagée. Alors ça fait que finalement, ce colis, c'était pas grand-chose, parce qu'on ne pouvait pas manger devant celle qui couchait à côté de vous. Donc oui, c'était. Il y avait une amitié profonde.
Alors, vous ne préoccupez pas du micro,
je m'en occupe. Il est poilu.
Oui.
Ouais. C'est pour éviter le vent.
J'avais un caractère, moi. J'aime de rire, moi, alors. Et je dis toujours quelques blagues. Je pleurais des bons moments, et puis après, je riais. Comme toutes, d'abord, on avait des mauvais moments.
Et ils poussaient du trèfle.
Quand on se mettait vers le noir, c'était pas rigolo, hein.
Et ce trèfle, mon Dieu, à chercher le trèfle à quatre feuilles. Il y avait une pauvre femme qui tirait des cartes, une espagnole, et cette tireuse de cartes, c'était notre espoir.
Mais après, bon, on essayait d'aller, il faut
la rivière.
Se distraire un peu.
Je ne sais pas, c'était l'eau fraîche, c'était quelque chose qui vous animait.
Viens, c'est pas là.
J'en ai tellement de bouquins. Vous voulez que je le lise?
Ah oui, les poésies.
L'international en espagnol.
On l'a fait là-bas, ça. Hein.
Vous l'avez là, le poème?
Oui.
On avait fait, oui, quand le soleil brûlera. Oui.
On va passer par là.
Vamos la joven guardia. Attends, il faut que je me rappelle.
On va rien voir.
Somos la joven guardia.
T'as l'air là-bas, je pense qu'on va voir en mieux.
Après, maintenant, je me rappelle.
J'escalade pas ce truc. Hein. Aïe.
On avait fait des fêtes, on faisait. Le directeur nous avait prêté pour Pâques un phonographe. Alors on avait un peu dansé, on avait chanté, on jouait. Moi j'avais fait de farandoleurs, j'ai dansé à l'époque.
Culturellement, on faisait beaucoup de choses.
Donc là on aperçoit un peu plus clairement le pavillon, la résidence du directeur du camp, ainsi que le perron sur lequel les internés donnaient leur fameux spectacle.
Ces activités qu'on se créait nous-mêmes, hein. Et puis entre nous, les jeunes, on tenait le coup, on dansait, on faisait
c'est
des.
Pas solide,
c'est bien. Oui, la baraque aussi, c'était bien.
Ah, regarde, il y a un mirador là.
C'est une bonne baraque, à le fond.
Ouais, on voit un petit peu là. Tu veux voir?
Non, ça va.
Ah, putain, c'est galère, mais on voit trois marches en fait.
Et peut-être que si on faisait le tour, on verrait mieux de l'autre côté.
Ouais, on y va.
après, on a organisé des cours. Alors, il y avait une dame espagnole, institutrice, qui donnait, alors moi, j'y allais.
Je lui dirai mon secret.
Alors, mon mari, je me suis mis à y parler l'espagnol. Tu as gagné ça? J'ai dit oui.
Attends. Un dernier compte tout ce qui me tracasse, elle tourne.
Mais on l'a fait avec Angèle, ça. Je lui ai donné le soufflet.
Sur l'air d'un mauvais garçon. Nous sommes des internés, nous ne savons pas quoi manger. On chantait. Nous sommes des. Attendez.
Alors, si on chantait avec Angélique, alors avec Angélique, oh, on était bonnes copines. Et...
on ne sait même pas pourquoi.
J'ai des photos du camp, et elles sont toutes de fête. On est toutes déguisées, on est toutes habillées. Mais...
qu'on est internées, qu'on ne sait même pas pourquoi on se trouve là. Alors, je me trouvais à côté de mon lit d'une artiste qui a été arrêtée à son hôtel avec toutes ses valises, une danseuse, Maxia.
Oui, vous voyez, je ne peux pas trop sauter, mais c'est comme ça.
Elle s'appelait Maxia Deslandes, voilà. Elle était belle. Voilà. Et alors, elle avait ça. Toute sa malle de,
voilà.
D'artiste. Ah, voilà. Alors moi, je me déguisais, je dansais avec ses affaires.
On avait une chorale au chant, au camp. C'était une manière de, comment dire, de garder le moral un peu. C'était notre manière de vivre. On s'est trouvé à Noël, et Dieu sait qu'on n'avait pas mangé, qu'on était privé de tout. Eh bien, ce Noël-là, je ne sais pas où qu'on a déniché des branches, parce qu'il n'y avait pas d'arbres dans la cité, dans l'enceinte, mais on a trouvé des branches, et nous, ma mère et moi, on avait reçu des noix, que ma soeur nous avait envoyé des noix, et on a trouvé moyen avec les coquilles de noix, avec une espèce de ruban de je ne sais pas quoi, de faire des berceaux, et on les a accrochés à ces branches. Et le comble, c'était que tout le monde dans la baraque a participé, chacun avec ce qu'il avait. Et on a fait une grande table tout le long du couloir, et on a mangé tous ensemble. Il n'y a pas eu une baraque qui ait fait ça. Mais nous, les Espagnols, on s'était unis ce jour-là pour manger tous ensemble. Hein. D'ailleurs, quand il y a une surveillante qui est rentrée, elle en avait la larme à l'œil. Et pourtant, Dieu, elle était un petit peu rigide plutôt. Et elle a dit, ça, je ne l'ai jamais vu.
Oulala, la Mercedes, vous vous rendez compte?
Duerme, chiquito, duerme.
Voilà. Et puis pour la fête des mères aussi. Là, c'était triste.
Ah non, ça, c'était l'italien.
Parce que sans les enfants, tout ça pleurait. Alors on a dit, allez, il faut. Alors on avait pleuré, puis on avait chanté.
Dormi, fai la nana, que quando serai grande.
Et un jour, comme Pétain avait institué la fête des mères, on a dit, oui, on va faire la fête des mères, et puis après, on leur fera la fête à eux. Et puis chacune a chanté une chanson dans la langue du pays, de leur. En espagnol, en français, en russe, en polonais, enfin bref. Et à la fin, quand tout le monde était content de nous avoir vus sur scène, on faisait les vedettes, les stars, on s'est mis à crier « Libérez les mères !» Et ça a été la débandade, quoi.
On s'était rebellés un peu. On avait rouspété, on avait... Oui.
Et alors, des années plus tard, mais des décennies plus tard, j'ai appris que les gens de Gaillac avaient dit, les femmes du camp, ils savaient qu'il y avait des femmes internées, elles ont eu un coup de folie, une nuit, elles ont crié, mais c'était parce qu'on se battait avec les flics.
Et les Allemands sont arrivés en trombe. Je me trouvais vers l'entrée, justement, je me souviens. Je regardais des fois à travers les plans. Et mon ami, une machine d'Allemand est venue, un camion, et ils m'ont fait raus, raus. Vite dans les baraques, et ils ont amené des gens.
Et puis tout d'un coup, on voit les siam de. Il y en avait 36. juives qu'on emportait, mais en les tirant, en les... Elles criaient, elles s'appelaient entre elles. Les mères qui essayaient d'appeler les enfants et tirer les enfants, c'était vraiment quelque chose de tragique, de vraiment tragique. Et ça, on l'a vécu très, très mal. Mais on avait, nous, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur de chaque... Chaque cabine avait une fenêtre. On s'est mis toutes dans les fenêtres. Et on a commencé à les insulter. On criait comme des fous dans la baraque. Et laissez-les, on les traitait de tout, de tout. Et puis quand ils sont montés dans le véhicule, on leur a chanté « Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est qu'un au revoir ». Et la Marseillaise, et puis bon, on s'est vraiment révoltés dans la baraque. Et cette petite que j'avais appris en affection, elle avait sa mère et une tante. Elles étaient trois. Et sa mère, elle me l'a confiée. Amène-la avec toi. Et moi, je la faisais danser, et je la faisais chanter. Elle ne parlait pas français. Alors, je lui apprenais un peu le français. J'ai eu beaucoup d'affection avec cette petite. Et la mère me l'avait confiée, vraiment. Vraiment. Aussi, quand je suis partie à Auschwitz pour elle, je lui avais fait une lettre et je regrettais ne pas l'avoir, n'avoir pas su la faire parler et ne pas savoir plus d'elle. Parce qu'aujourd'hui, si je savais vraiment, je connais sa date de naissance, je connais son nom, mais si, je sais qu'elle est née en Pologne, mais... Si j'avais fait parler un peu plus, que je sache si elle avait d'autres familles ou n'importe, je ferais des recherches pour leur dire que j'ai passé les dernières heures bien de sa fille avec moi. Parce que je l'ai entraînée à chanter, à danser, à faire tout ce que je faisais moi. Et je lui ai donné, je crois, un petit peu de bien-être dans le camp.
Eh bien voilà, monsieur, dame, vous avez fait votre...
C'est indispensable dans ces endroits-là.
Interroger l'artiste.
C'est indispensable d'avoir des amitiés.
Moi?
Oui. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Beaucoup, bonne journée.
Au plaisir. Oui.
J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je n'ai que des bons souvenirs parce que j'ai connu Nouria, par exemple, et d'autres. Et...
On l'embrassait bien de ma part,
hein. Ça sera fait.
Voilà.
Comme dirait le poète, si c'était à refaire, je referais ce chemin.
Ça, pour moi, ça a été quelque chose de... que j'ai toujours dit, même que c'est bien que j'ai fait ça. Tout en étant enfermée, ben, j'ai connu des gens vraiment charmants. Des personnes qu'on n'oublie pas, ça. Et voilà, toute l'histoire.
arteradio.com.
Ça fait rire, ça veut dire.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Visionne. Substantif.
Qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine. Adjectif.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.